comprendre et débattre, une rubrique d'information proposée par Paul Masson et Radio PFM. Paul Masson, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle une nouvelle fois que vous êtes habitant arrageois, membre de Culture et Liberté et d'Attaque. Alors ensemble, on parle depuis quelques semaines des différents mouvements d'éducation populaire. La semaine dernière, on a parlé ensemble de l'Uriage pendant la Résistance. Alors aujourd'hui, on en arrive à 45. Alors 1945, c'est l'explosion de l'éducation populaire. Comment ça se passe à cette période?
Oui, on peut dire qu'en 1945, c'est la victoire de la Résistance. Hein, c'est essentiellement ça, hein, c'est ceux qui ont résisté. Et ce qui va se passer après-guerre au niveau de l'éducation populaire est dans la continuité au moins de 1936, au moins sur un aspect, c'est que l'éducation populaire est reconnue par les pouvoirs publics. Et ça, ça va continuer. Et l'État va d'ailleurs investir par rapport à cette idée, à cette importance de la culture du peuple.
Alors comment l'État a investi?
C'est à ce moment-là que se met en place les bibliothèques centrales de prêt. Le bibliobus qu'on voit, c'est à ce moment-là que ça se met en place. C'est à ce moment-là que l'État crée les CREPS, Centre Régional d'Éducation Physique et Sportive, qui étaient des lieux pour la vie associative, des lieux pour l'éducation populaire, des salles, des équipements à disposition. Ça va être à ce moment-là que la direction de l'éducation populaire, avec Jean Guénaud, va créer les centres d'éducation populaire, qui sont aussi des équipements, des lieux où les associations peuvent investir. On va avoir, à ce moment-là, que se met en place la direction générale de la jeunesse et des sports, qui est la structure ministérielle qui accompagne les mouvements d'éducation populaire, et elle les accompagne en créant des postes de fonctionnaires pour les accompagner, les inspecteurs départementaux. Et on va avoir, à ce moment-là, tous les conseillers techniques de jeunesse et sport. C'est-à-dire, on veut développer l'éducation populaire. Il y a des associations qui s'organisent. Il y a des gens qui vont prendre, qui vont essayer d'organiser tout ça. Et les pouvoirs publics accompagnent ça. Vous voulez faire du champ. Et bien, vous avez un technicien qui est payé par l'État qui va pouvoir vous donner un coup de main pour apprendre à former du monde, pour apprendre à organiser du chant, du théâtre, du cinéma, des sorties nature.
Alors ça, c'est la part, j'allais dire, institutionnelle, donc financée par l'État. Et à côté de ça, il y a un grand nombre d'associations qui se créent là aussi.
Alors voilà, le mouvement qui avait été lancé en 1936, on peut dire pendant la guerre, il est au point mort. Et après-guerre, alors, ça va redémarrer, et ça va redémarrer en très très grand. Alors, je ne vais pas énumérer toutes les associations qui ont été créées après-guerre, parce qu'il faudrait prendre un temps très très considérable, et je suis sûr que j'en oublierai. Mais on peut dire que l'éducation populaire va se mettre à investir presque tous les secteurs très très importants de la société. Il y a, par exemple, à cette époque-là, qui met en place travail et culture dans le domaine de l'art. Travail et culture, son idée, c'est de dire les travailleurs ont droit à la culture. Et avec une vision de la culture qui était ont droit à l'art. Et ça va être, par exemple, faire en sorte que, par les comités d'entreprise, des gens puissent avoir accès aux disques de musique classique, puissent avoir accès aux expositions, en faisant en sorte que ce soit gratuit, en faisant du travail d'initiation à l'art, de manière à ce qu'on puisse aller dans un musée, mais comprendre ce qui se passe, d'initiation à la musique. Ça va être ce secteur-là.
Et ça au sein de l'entreprise alors.
Et Travail et Culture va travailler avec les comités d'entreprise qui commencent à se mettre en place à ce moment-là. Mmh. C'est quelque chose qui va se développer, qui va durer longtemps. Mmh. On va avoir, dans le domaine du tourisme social, à la fois tourisme et travail, et un certain nombre d'autres, alors je pense celle-ci parce que c'est des grandes fédérations qui ont marqué, mais d'autres maisons familiales de vacances, où c'est des associations qui organisent une maison familiale de vacances pour faire en sorte que les travailleurs d'une commune puissent partir en vacances pendant leur congé payé à un prix accessible. Je suis allé dans ce type de maison familiale de vacances. C'était organisé par une association familiale. Et pour faire la vaisselle, eh ben c'était les familles qui participaient aux vacances qui faisaient la vaisselle collectivement pour que ça puisse ce soit jouable au niveau budgétaire. Mais ça permettait à des personnes de pouvoir partir en vacances, qui n'en auraient pas eu les moyens. Donc, on va avoir, au niveau des mouvements de jeunesse, c'est à ce moment-là, les francas, les franches camarades, c'est à ce moment-là que ça se crée. Pour les mouvements de jeunesse, aussi pour les jeunes, c'est tout de suite après-guerre que vont se mettre en place les foyers de jeunes travailleurs. Et tout ça, c'est pas l'État qui le met en place. C'est les gens qui s'organisent, c'est les associations qui s'organisent. Dans le domaine culturel, j'ai fait allusion à Peuple et Culture, puisque Peuple et Culture, on peut dire que ses origines se trouvent dans la résistance et dans l'école de l'Uriage. Parmi les apports de Peuple et Culture, il y a l'idée, apprenons, théorisons la manière d'apprendre pour faire en sorte qu'on puisse développer cet apprentissage avec l'entraînement mental. Et on va avoir aussi les foyers ruraux, les maisons des jeunes et de la culture. Et tout ça va se mettre en place, et c'est après-guerre que progressivement, dans les années 45-50, vont s'organiser les grandes fédérations de l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'éducation populaire, à ce moment-là, a non seulement été reconnue au niveau d'un titre, ce qui était déjà acquis de 36, mais progressivement, les mouvements d'éducation populaire sont reconnus par les pouvoirs publics comme acteurs de la société. Pour faire une société, eh ben on a besoin de faire en sorte que les gens s'organisent et la vie associative est reconnue. Et l'organisation de cette vie associative en fédération, de manière à ce que les gens pensent que les gens s'organisent, apparaît comme un moyen de faire société. On va avoir aussi un certain nombre d'artistes, d'intellectuels qui vont accompagner ça et qui vont avoir ce souci de la culture populaire. Par exemple, c'est à ce moment-là que va se mettre en place le Festival d'Avignon. L'idée, c'est qu'il faut qu'on touche, que les œuvres artistiques arrivent jusqu'au peuple. C'est aussi à ce moment-là le TNP, le Théâtre National Populaire de Jean Villard, qui dit « on va aller faire des tournées dans les quartiers ». En région parisienne. On sera plus. Les gens ne faudront pas qu'ils viennent au théâtre, c'est nous qui allons aller au peuple. C'est à ce moment-là qu'on va avoir un certain nombre de troupes qui vont décider de se décentraliser. Je pense par exemple le Grenier de Toulouse, qui est une troupe qui a été décentralisée, c'est une troupe parisienne qui a décidé de se décentraliser à Toulouse. Ou à Saint-Étienne, Jean d'Asté va s'installer à Saint-Étienne, créer la Comédie de Saint-Étienne en disant « il faut aussi que la culture ne soit pas une affaire de Parisiens, mais que ce soit l'affaire de tout le monde ». C'est-à-dire que ce mouvement-là est accompagné par des artistes et accompagné par des intellectuels. Et ça va influencer l'éducation populaire, ça va l'influencer et en même temps on va avoir tout au cours de l'histoire de l'éducation populaire un double axe. Un axe qui a tendance à dire il faut apporter la culture au peuple. Et il va y avoir un autre axe qui va avoir tendance à dire la culture populaire, c'est pas quelque chose qu'il faut distribuer, c'est il faut vivre ensemble pour la créer. La culture, c'est le fruit de l'action et de la vie. Et un autre qu'il faut aller au peuple. Et ça, c'est quelque chose qui seront pas forcément antagonistes, mais c'est quand même deux axes qui permettraient de structurer l'éducation populaire dans l'histoire.